Bienvenue dans notre programmation Les Ondes d'intégration, une action cofinancée par le FEI, le Fonds européen d'intégration. Ce trimestre, nous avons parlé des notions de liberté, égalité et fraternité. Tout de suite, je vous propose d'écouter une émission hommage à Nelson Mandela, animée par Mayassine Diop avec Cherso, médiateur interculturel au CLAP Sud-Ouest, et Karfa Diallo, président de la Fondation du Mémorial pour la traite des Noirs. Très bonne écoute sur O2 Radio.
Mesdames et messieurs, monsieur, bonsoir. Il est exactement 19h passé d'une minute sur les ondes de radio 91.3 de la bande FM. En ce jeudi 26 décembre 2013, deux jours après Noël, joyeux Noël à tous les auditeurs de Radio 91.3 et de la bande FM et sur Audoradio.net. C'est une question d'actualité qui sera entièrement consacrée à ce grand Africain, cette grande personnalité africaine qui nous a quitté le jeudi 5 décembre 2013. L'ex-président sud-africain et figure de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela, s'éteignait à l'âge de 95 ans. Ce fervent défenseur des droits de l'homme a obtenu le prix Nobel de la paix en 1993 avant de devenir le premier président noir d'Afrique du Sud l'année suivante. Ce grand combattant pour l'égalité des races s'est battu jusqu'au dernier jour de sa vie. En effet, après plusieurs annonces de sa mort, le géant Madiba n'a jamais cessé de lutter contre pour cette vie, juste histoire de dire je ne suis plus actif, certes dans la vie politique et publique, mais je lutterai contre cette maladie et ses annonces incessantes de ma mort. Pour en parler aujourd'hui, j'ai comme invité monsieur Cherso, anthropologue, musicien chargé de mission au CLAP, monsieur Cherso, bonsoir.
Bonsoir, Mayassine.
Monsieur Cherso, vous êtes chargé de mission au CLAP. En quoi il s'agit exactement?
En fait, le CLAP, c'est une association qui se nomme Comité de liaison des acteurs de la promotion. Donc, c'est une association régionale en Aquitaine qui s'occupe de la formation à la vie associative, de la lutte contre l'illettrisme, l'analphabétisme. Et moi, je m'occupe d'un secteur qui s'appelle les ateliers pédagogiques interculturels. Et donc, je suis chargé de mission à la fois sur les questions interculturelles et sur les démarches participatives.
Exactement. Invité ne pouvait être plus adapté à notre sujet de ce soir. Nous essayerons au cours de cette émission d'appeler Karfa Diallo, président de la Fondation de la traite des Noirs à Bordeaux, qui nous parlera au téléphone aussi de ce qu'il pense de cette figure africaine, cette grande figure. Monsieur Cherso, un premier jet sur cet illustre africain, Nelson Mandela.
Écoutez, je pense que depuis qu'il est mort, et même avant l'annonce de sa mort, beaucoup de belles choses ont été dites sur cette personne-là, et je ne sais pas ce qu'on peut vraiment redire de plus, mm-hmm. sinon effectivement rappeler que c'est un grand homme, qu'il est une véritable figure exemplaire de l'Afrique moderne, et je dirais même du monde entier, qu'il est un exemple qui doit servir de référence à toutes les femmes et tous les hommes politiques africains, à la fois par sa détermination à lutter contre les injustices dans son propre pays, à mettre sa vie au service de cette lutte-là, à ne pas hésiter à la sacrifier, à lutter jusqu'au bout contre l'apartheid, et à la fin, à pardonner à ce qu'il avait mis en prison, à ce qui avait transformé son peuple et son pays en une véritable prison. Voilà, et je crois que c'est quelqu'un dont on continuera à parler, mais encore des siècles et des siècles. Je dis à mes enfants, mais je ne sais pas si dans ce siècle-là, on a connu homme plus grand. Je ne pense pas. Mais je dis à travers vraiment le monde entier. C'est la première fois que quelqu'un meurt et pleuré par mais le monde entier. Alors, mon fils me disait, mais tu sais, Bob Marley, tu vois, dans tous les pays, on entend sa musique. Et j'ai dit, mais le nom de Mandela, dans tous les pays du monde, il a résonné. Et même dans les pays où on ne l'aimait pas nécessairement, les gens ont été obligés. Et c'est ça, c'est-à-dire sa grandeur est telle qu'il oblige même ce qu'il haïssait à prononcer son nom. Et ça, c'est extraordinaire. Et je dis que c'est un homme de haine, qui n'a pas de haine, même pour les gens de haine.
Effectivement. Et on y reviendra tout à l'heure sur sa prestation, les idées qu'il a toujours défendues. Voilà. Et puis, même si quelque part certains l'ont sanctifié, on peut dire toujours aussi qu'il reste un être humain qui a ses qualités, qui ses défauts. Et on parlera tout ça dans cette émission. Avant, nous allons écouter juste une petite chanson signée Johnny Clegg sur les ondes de Radio 91.3. De la bande FM.
Hasimbonanga, Hasimbonango Mandela Tina, la pekona, la pefelikona.
Hasimbonanga,
Hasimbonango Mandela Tina, la pekona, la pefelikona.
Hey, Voilà, c'était le Zoulou blanc, Johnny Clegg, qui nous chantait, qui rendait un hommage à sa manière, Nelson Mandela. C'était en pleine période de lutte contre l'apartheid, cher Sow. Vous qui êtes musicien, vous avez été témoin aussi quelque part de cette campagne de lutte contre l'apartheid dans le monde et particulièrement par les musiciens du monde.
Oui, mais avant, en fait, je m'excuse parce que d'habitude, quand on commence les émissions, on remercie ceux qui nous ont invités. J'ai failli à tout le monde devant parce qu'on est tellement parti vite et c'est vrai que c'est important quand même de le dire parce que l'émission que tu animes le jeudi, comme d'ailleurs celui du dimanche, sont des émissions que je suis assez bien et puis qui permettent aussi justement à des voix comme nous, des petites voix, de prendre la parole et puis de se poser, quoi. Voilà, je tenais quand même à le dire. C'est vrai que Johnny Clegg a fait partie de tous ces musiciens qui ont porté à travers le monde la lutte anti-apartheid, comme Miriam Makeba, Yuma Sakala, tout ça. On les connaît. Et je crois que c'est important. C'est, bon, je crois que le front culturel dans toutes les luttes est très, très, très important.
Effectivement. C'est quelque chose qui a permis aussi, à quelque part, à pas mal de citoyens du monde de prendre conscience de cette réalité qu'était l'apartheid à l'époque.
Mais oui, parce qu'il faut, quand même savoir que même dans nos pays africains, tous les présidents ne soutenaient pas l'ANC et il y avait une sorte de d'alliance d'alliance anti-ANC alors certains étaient clairement du côté effectivement du pouvoir blanc et puis d'autres bon se refusaient effectivement d'exprimer leur participation ou leur soutien à l'ANC quoi et je crois que ça quand même c'est important de le dire parce que quand on voit aujourd'hui les larmes de crocodile qui que l'on verse sur la dépouille de Nelson Mandela, je me dis bon, c'est important quand même de le rappeler quoi, que en France à part les communistes, les lecteurs de témoignages chrétiens, quelques militants, il y avait très peu de personnes qui en parlaient. Moi je me souviens quand j'étais étudiant à l'université de Dakar, c'était effectivement les étudiants militants qui en parlaient, mais nos hommes d'État n'étaient pas nécessairement très clairs par rapport à leur soutien vis-à-vis de l'ANC. Donc, le fait qu'il y ait effectivement des musiciens qui arpentent les routes du monde pour en parler dans des grands concerts, par leur belle musique qui traverse les ondes de la radio et de la télévision, participer effectivement à la connaissance et à la diffusion de la lutte de l'ANC, quoi.
Effectivement, parce que si l'on voit bien ce 5 décembre 2013, alors que le monde parlait du drame en Centrafrique, et qu'en France, d'une soi-disant opération à la prostate de François Hollande, Madiba nous quittait pour l'éternité. À partir d'un tel coup de massue, je peux dire, sur la tête du monde, tout un chacun était autorisé à s'atteler à lui rendre un hommage à sa manière et mettre en exergue ses idées, même s'il ne les défendait pas. Tel qu'un saint, le premier président noir de l'Afrique du Sud illuminait le monde d'une baguette magique comme ça. Alors moi, ce que j'ai retenu après cette annonce, c'est-à-dire que le charisme de cet homme qui est parti jusqu'à ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Sow, que même ceux qui, dans leur pays, font aujourd'hui encore la dictature, ont tenu à rendre un hommage à quelqu'un qui lutte pour la liberté du citoyen.
Non, mais moi, je le disais l'autre jour à un ami, j'ai peur que, à force de sanctifier Nelson Mandela, on finit effectivement par détruire son héritage. Je pense que la meilleure façon de nier et de détruire son héritage, c'est de le sanctifier. Alors qu'il l'a dit clairement, ce n'est pas un prophète, c'est un humain. Et c'est un humain. Et la seule chose, c'est qu'il est en lui ce qui est en nous tous. Sauf que lui, il a pris la décision d'aller jusqu'au bout. Il est inscrit en toute personne dans ce monde-là, de pouvoir dire je dis non ou je dis oui.
Mm-hmm.
Bien sûr, il y a des circonstances politiques, historiques, qui vont faire que. Et il a dit très clairement, donc si on veut vraiment suivre son exemple, c'est qu'il faut qu'on soit très ferme sur certains principes. Et ça, c'est vraiment, c'est important. C'est-à-dire qu'il a lutté jusqu'au bout.
Mm-hmm.
Alors, aujourd'hui, on l'aurait traité de terrorisme, parce qu'il n'a jamais renié la lutte révolutionnaire.
Mm-hmm.
Il n'a jamais renié la lutte armée.
Oui,
parce que dans les conditions où ils étaient, mais ils étaient liquidés.
Mm-hmm.
Il n'a jamais renié ça. Il a été toujours très ferme. Jamais de sa vie, jusqu'à sa mort. Il n'a jamais renié d'avoir pris les armes pour lutter contre l'apartheid. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Il n'a jamais renié le fait qu'il fallait lutter jusqu'au bout, à la fois pour liquider la domination blanche et pour éviter effectivement qu'il y ait aussi une domination noire. Et ça, c'est important. Donc, ce n'est pas le pacifiste qu'on veut, parce que le pacifisme, c'est pas Gandhi, je veux dire. Ce n'est pas Gandhi. Et c'est important, ça. Ce n'est pas Gandhi. Alors, aujourd'hui, bien sûr, ceux qui parlent de pacification, c'est eux-mêmes qui créent les guerres et qui sont violents, à travers le monde. Vous voyez ce que je veux dire?
Effectivement.
Et je dirais même, j'irais même plus loin. Et je crois que c'est important de le noter. Si, par exemple, le président israélien n'est pas venu, il y a plusieurs raisons à ça. C'est pas seulement la question, bien sûr, la question de la sécurité, c'est pas seulement la question des moyens. C'est parce que Nelson Mandela a toujours été du côté des peuples opprimés. Et donc, il a été toujours du côté du peuple palestinien. Et il l'a dit très clairement. On a des images où il est avec Yasser Arafat. Et il a été aussi soutenu par Kadhafi. Avec tout ce qu'on peut dire sur Kadhafi, moi j'étais très surpris de voir Nicolas Sarkozy et sa femme aller se rendre à côté de Nelson Mandela en prenant des photos, le même qui effectivement quelques mois plus tard ou avant a participé à la liquidation de Kadhafi. Et je crois que c'est important ça, c'est important de rappeler vraiment l'histoire. De la vie de cet homme. Voilà. Et beaucoup de choses, de questions aujourd'hui qui sont posées après sa mort devront être lues aussi à travers cette grille-là. Mais on ne peut pas seulement nous montrer un Nelson Mandela tel que le monde occidental, impérialiste, capitaliste. Moi, je le dis comme ça parce que je suis quand même militant révolutionnaire. Vous nous le montrez quoi. Et en même temps, il a dit aussi quelque chose de très important. C'est que sa lutte est une lutte collective.
Oui.
C'est-à-dire, ça c'est important. C'est-à-dire, Nelson Mandela a été ce qu'il a été, à la fois par sa propre détermination, mais aussi un travail collectif, toute une histoire de mouvements de lutte. Il ne faut pas oublier Steve Biko du Pan-African Congress,
exactement,
qui a été liquidé. Dulcis Stemberg, 2 ans avant sa libération, qui a été liquidé. Sa femme Winnie Mandela, que l'on essaie aujourd'hui de traîner dans la boue, et qui a maintenu quand même à bras levés, le combat quand Nelson Mandela était en prison.
Ouais.
Donc, je crois que ça, c'est important. Et donc, je dis, si on veut vraiment sauvegarder l'héritage de Nelson Mandela, c'est de ne pas le sanctifier. C'est de nous dire, il nous a montré le chemin. Parce que si on le sanctifie, cela signifie qu'on n'est pas capable de faire comme lui. Et donc, on se dédouane de rien faire. Alors que justement, ce qu'il nous dit, c'est possible. Mais oui, c'est possible à nos hommes d'État africains, là, de prendre le pouvoir juste 5 ans et de partir. C'est possible de se retirer après un mandat. Oui, c'est possible, les amis, de dire non, même au plus grand du monde. Oui, les amis, c'est possible, à force de ténacité, de faire de vos pays de grands pays développés. Oui, c'est possible, les amis, de vivre avec très peu. Oui, c'est possible, les amis, de vivre jusqu'à sa mort, tout en étant au pouvoir, et de vivre avec un compte en banque presque à zéro. Mais oui, de ne pas être seulement dans le pouvoir le plus visible. Oui, c'est possible de vivre sans être dans l'ambition personnelle, de reconnaissance, d'égoïsme, etc. Oui, c'est possible. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Mais si on le sanctifie, ça signifie, ah oui, c'est un prophète. Donc finalement, on ne peut jamais faire comme lui. Et donc, on ne s'autorise pas
et lui-même,
de ne pas le faire.
Lui-même se refusait d'être considéré parce qu'il a fait part aussi de ses insuffisances, de ses erreurs. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Adama Gueye, qui a été l'un des premiers journalistes avec Jeune Afrique Économique qui a eu à l'interviewer en 1991. Il était dans l'avion avec lequel Mandela faisait ses tournées après sa première sortie de prison, et il a eu à l'interviewer. Il nous parlera aussi de Nelson Mandela, parce que il a eu à le rencontrer, il a eu à vivre, à être à ses côtés pendant 2 semaines, partageant pratiquement la vie avec Mandela pendant quelques semaines, et il nous dira de ce qu'il pense de Nelson Mandela après sa mort, parce que Nelson Mandela n'aimait pas aussi qu'on le sanctifie, qu'on le considère tel qu'un demi-dieu, parce que il disait que c'est un être humain qui a ses faiblesses, qui a ses qualités, mais ses faiblesses, qui a ses erreurs, qui a commis aussi des erreurs dans sa vie, et puis qui a envie, voilà, qu'on mette plus en avant, que les gens prennent exemple par rapport à ce qu'il a fait pour la lutte pour la liberté, c'est vrai, mais dès lors qu'on le prend, l'homme en tant que tel, là, on découvre qu'il n'est plus un demi-dieu. Et c'est ça qui est important, parce que aujourd'hui, on a vu qu'aussi, quand il a été président, sur le plan économique, il n'a pas su amener l'Afrique du Sud, ou bien effacer les inégalités qui existaient.
C'est là où on voit bien que ce n'est pas un prophète au sens où, avec une magie, il peut transformer le monde. Mm-hmm. Il a fait ce qu'il devait faire. Tu sais, moi, j'aime bien, il y a toujours cette phrase-là, j'aime bien cette phrase d'un artiste sénégalais, Ndiagambey, Diamono, Koko Feke Warsa, Def Lubach, Diamono, Aïssa Ganaoula. Vraiment, c'est vraiment ce que je dis chaque fois. Dans ton époque, fais ce qui est bien, et ce qui est mauvais, ce sera derrière toi. Mais fais ce que tu penses être de bien, quoi. Et vraiment, cette phrase-là, je la sors très souvent, parce que on a aussi des artistes sénégalais, mais de vieux comme ça, qui pensent les réalités de manière philosophique, quoi. Et en fait, il a fait ce qu'il devait faire, lui. C'est-à-dire, ce qu'il devait faire, c'était sacrifier sa vie, lutter. Tu sais, il a dit, je ne sortirai pas de prison sans les autres. Il était prêt à mourir, mais pour lui, il était déjà mort. Donc, il a fait tout ce qu'il devait faire pour liquider l'apartheid. Ça, c'était son combat. Il est allé jusqu'au bout. Après, on sait très bien quand même, quand un pays a vécu plus d'un siècle d'apartheid, avec de la ségrégation, où il y a un pouvoir économique qui est là, il faut quand même réfléchir. Je crois que ça, c'est important quand même, de la manière dont il a géré cette transition. Imagine-toi, si par exemple, et là c'est un grand homme, quoi, s'il avait fait comme l'Algérie, s'il avait dit aux Afrikaners blancs, partez. On les spolie. On les enlève de là. Mais il savait très bien que là, l'Afrique du Sud se les retombait encore pire que certains États africains. Parce que dans une situation coloniale, qu'est-ce qui se passe? C'est que les colonisés, ou ceux qui subissent l'apartheid, sont dans des systèmes de domination qui sont non seulement aliénants, mais un système aussi de subalterne. C'est-à-dire qu'on ne leur apprend pas à gérer les systèmes. L'économie, l'industrie, le politique, la vie sociale, etc. On leur apprend pas à gérer l'État, à gérer l'administration. C'est souvent des subalternes, des résidents de seconde zone. Donc, et c'est dans tous les systèmes coloniaux qu'on a connus en Afrique, c'était ça. C'est les colons qui décidaient, qui géraient. Et quand ils sont partis, on a mis des personnes, mais qui n'étaient pas à même de le faire. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a fini par dire, mais les Africains ne savent pas gérer. Mais parce qu'on ne leur a pas appris à gérer. Voyez. Et donc, lui, il a compris. Il a eu quand même l'expérience, effectivement, de l'Algérie et puis des autres pays africains. Il s'est dit, mais non, on ne peut pas. Du point de vue pragmatique, on ne pouvait pas, et du point de vue moral. Et là, c'est important. C'est-à-dire, si à cette personne-là, la morale rencontre la politique. C'est-à-dire, la morale devient un paramètre politique, devient un élément consubstantiel à la politique. Voilà. Et donc, il se dit, mais c'est des personnes aussi qui ont vécu ici, qui sont historiquement reliées ici. Même si ce sont leurs ancêtres qui étaient là, ils sont de ce pays-là. En plus, il y a des Blancs sud-africains qui ont lutté auprès des Noirs, à la fois dans le Parti communiste africain, dans l'ANC, comme dans le Pan African Congress. Donc, ils font partie aussi historiquement de ce pays-là. Il a analysé ces deux éléments-là et il a imposé cela, parce que ce n'était pas facile. Hein. Je pense qu'il y avait quand même des luttes internes très dures. L'extrême gauche voulait carrément la rupture, liquider les Blancs, les faire sortir, etc. Il a sauvé, je pense qu'il a sauvé l'Afrique du Sud. Il a sauvé aussi toute cette région-là avec son slogan de la nation arc-en-ciel, quoi.
Bien sûr.
Parce
bien
que même
sûr.
Au niveau des Blancs, il y en avait aussi qui cherchaient que ça se passe comme ça.
Mm-hmm.
Qui disaient qu'ils avaient peur, qu'on allait les liquider, etc. Et qui voulaient que ça pète pour que justement, qu'ils puissent revenir aussi.
Bien
parce
sûr.
Que c'était pas donné malgré tout.
Mm-hmm.
C'était pas donné. Et donc, je crois que ça, c'est important aussi de vraiment l'analyser de comment il a pu sauver les choses au niveau de l'Afrique du Sud. Quoi.
Effectivement.
Et il a fait ça. C'était son boulot.
Mm-hmm.
C'était vraiment son. C'était ce qu'il pouvait faire. Le reste. Il dit, voilà, je confie aux générations futures de construire. Et c'est là où les générations futures ne doivent pas
échouer.
Vraiment rater le coche, quoi.
Mm-hmm.
Voilà.
Effectivement. Et nous allons essayer d'écouter Adama Gueye, qui est un journaliste, qui est consultant international, et qui à l'époque travaillait pour Jeune Afrique Économie en 1991, aussitôt à sa sortie, et qui a rencontré Nelson Mandela. Il fait partie des premiers journalistes à avoir interviewé Nelson Mandela. Nous avons eu à le contacter et à ce qu'il nous fasse une analyse de la vie de Nelson Mandela. Il nous montre ici comment le premier président noir était une personnalité aux dimensions multiples. Adama Gueye sur les ondes de Radio 91.3. Adama Gueye, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, l'Afrique a perdu un grand homme. Il s'agit de Nelson Mandela. Vous, en tant que consultant international, vous qui l'avez quelque part côtoyé, que ressentez-vous aujourd'hui et qui était vraiment cet homme?
Bien sûr, comme tout le monde, j'ai le sentiment que le monde, pas seulement l'Afrique du Sud, ont perdu un grand monsieur, comme il en existe très rarement ou pratiquement plus aujourd'hui. Nelson Mandela était une personnalité, pas seulement politique, mais dont la dimension sociale, éthique, morale, et le comportement qu'il a eu durant son passage sur Terre ont constitué suffisamment de raisons pour en faire le symbole universel qu'il est devenu au moment de sa mort. J'ai en effet connu Nelson Mandela, je l'ai connu peu après sa sortie de prison, au moment où il faisait ses voyages à travers l'Afrique. J'étais, je pense, le seul étranger admis à bord de l'avion privé qui le conduisait, et j'ai pu donc le voir de très près, voir combien il était très calme, très posé pendant tout le vol, notamment lors d'un trajet, je l'ai vu rester concentré sur sa lecture. C'était pas un homme léger ou superficiel. Et ensuite, je l'ai interviewé pour un journal panafricain à Paris, et j'avais perçu en lui tous les symboles dont on parle aujourd'hui et que le monde découvre. C'est un homme qui a su résister face à l'oppression raciale. Il a su, seul dans sa geôle, résister aux tentations qui lui étaient offertes. Et une fois sorti de prison, il a été capable de se dépasser en étant l'architecte de la réconciliation nationale et des retrouvailles et de la nouvelle Afrique du Sud, pour ainsi dire. Voilà, c'est un grand monsieur de la dimension de Martin Luther King, de la dimension de Indira Gandhi, de la dimension de Winston Churchill ou de Franklin Roosevelt, et parfois même on peut dire qu'il a été au-dessus parce que ses réalisations dépassent dans une certaine mesure ce que ces autres ont pu réaliser et qui font d'eux aussi de grands dirigeants du monde.
Pouvons-nous dire que le monde a vraiment compris le message et la leçon donnée par Mandela?
Il faudra attendre pour voir si dans les faits, le message de Mandela de paix, de réconciliation, de dépassement, si ce message sera pratiqué par ceux qui sont accourus aux obsèques de Mandela. Beaucoup d'entre eux y sont allés parce qu'ils savaient que c'était un moment important, rare. Ils y sont allés parce qu'ils ne voulaient pas rater l'occasion. Ils cherchaient, comme on dit aujourd'hui, à faire partie du buzz. De là maintenant à traduire dans les faits le message de Nelson Mandela, c'est une autre paire de manches. Et déjà, les huées qui ont été infligées à certains de ces personnalités en premier chef, au premier chef, le président Zuma souligne à suffisance que n'est pas Nelson Mandela qui veut.
Effectivement. Est-ce que vous croyez-vous que ce message pourra régler le problème de racisme en Occident?
Oh non, pas du tout. Le problème de racisme, c'est quelque chose qui a existé depuis la nuit des temps et qui continuera d'exister. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est aussi lié au fait que la crise économique accentue les intolérances, mais aussi le fait que les nations ont été divisées par des populismes qui ont prospéré et qui deviennent aujourd'hui des bases électorales pour beaucoup d'acteurs politiques. Tout cela va continuer de concourir à renforcer ou à, en tout cas à maintenir la tradition du racisme. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même en Afrique du Sud, aujourd'hui, le racisme continue d'exister. L'apartheid a été éliminé sur les papiers, mais dans les faits, les populations vivent côte à côte. Elles ne sont pas encore imbriquées les unes des autres en Afrique du Sud. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions de ce côté-là. Il faut saluer l'action de Mandela. Il a montré la voie à suivre et il faut bâtir sur son héritage, mais ne pas s'attendre à ce que, en un tournement, l'histoire de l'apartheid ou du racisme disparaisse comme ça, non.
D'accord. Que peut-on retenir du président Mandela, président de la République, les actions fortes, les plus fortes en tant que président?
Je crois que ce qui symbolise son action, c'est le combat pour réunir l'Afrique du Sud, la transformer en une coalition arc-en-ciel, une multitude de races, en faire un pays post-racial, réunifié au moins à l'intérieur. Je crois que c'est ça qu'il a réussi et l'un des actes qui traduit le mieux cette démarche, c'est quand il a porté le maillot de l'équipe nationale de rugby sud-africaine, les Springboks, lors de la finale du championnat du monde de rugby en 1995. Ce jour-là, Nelson Mandela a montré qu'il faisait sienne les préoccupations de la population blanche. Je pense que au-delà de cet aspect, on retiendra de lui également un autre acte majeur qu'il a posé, c'est le fait qu'il ne se soit pas accroché au pouvoir. Tout aurait pu le pousser à vouloir rechercher un deuxième, voire un troisième mandat à la tête de l'Afrique du Sud. Or, en un seul mandat, de 1994 à 1999, il est resté au pouvoir. Il a su quitter avec classe et grâce. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare dans l'Afrique d'aujourd'hui pour devoir être souligné.
D'accord. En tant qu'être humain, quels sont les gestes qui vous ont marqué de Mandela dans ses habitudes, dans sa manière de parler, dans ses manières de faire?
L'ayant approché d'assez près, quand je voyageais avec lui et quand je l'ai interviewé, j'avais été frappé par sa simplicité, d'une part, mais par aussi son discours. Ce n'est pas le moi, le je, la propension à l'égocentrisme, c'est plutôt un homme qui semblait être très discipliné dans la logique du parti, de son parti. Le centralisme démocratique était l'une des méthodes qui gouvernaient les partis, notamment les mouvements de résistance, de libération nationale qui existaient en Afrique australe. Et Nelson Mandela a accepté de se soumettre à la discipline de son groupe. Il n'était pas évident d'avoir cette attitude pour quelqu'un qui était pratiquement un dieu sur terre. Je dirais enfin que je retiens de Nelson Mandela le fait que lui-même ait eu le courage de dire qu'il n'était pas saint, qu'il n'était pas un saint, qu'il était un homme avec ses faiblesses. On le voit avec son divorce avec Winnie Mandela, on le voit avec sa vie privée un peu dissolue, comme c'est le cas pour beaucoup de grands hommes, ses enfants qu'il n'a pratiquement pas pu connaître véritablement, et tant d'autres actes qui montrent que Nelson Mandela, tout vénéré qu'il soit aujourd'hui par le monde, n'a pas été un homme qui a tout réussi dans sa vie. Un dernier exemple qui peut l'attester, c'est le fait qu'en quittant le pouvoir, il a laissé un pays toujours divisé en termes économiques, un pays qui n'a pas pu réaliser de grandes évolutions économiques et un pays où les germes de la division raciale n'ont pas encore été totalement éliminés. Je crois qu'il faut retenir de lui cette leçon, qu'il a été un homme qui s'est battu pour les causes auxquelles il a cru, qui a tenu à aller jusqu'au bout de sa logique, y compris à montrer qu'il était prêt à faire le sacrifice suprême pour cela. Et enfin, je dirais de Nelson Mandela qu'il nous invite tous à prendre la décision de nous engager politiquement, de poser des actes. Pour ma part, en tout cas, c'est l'une des leçons que je retiens et je crois que je vais m'engager désormais à côté d'un mouvement politique qui existe dans ce pays pour prendre part dans le combat politique qui importe pour changer nos sociétés. Et je pense que j'ai déjà pris les premiers pas, je vais annoncer ça très bientôt.
Je crois que mesure ne pouvait pas être plus grande et nouvelle ne pouvait pas être plus grande. Voilà, c'était Adama Gueye, journaliste consultant international, qui nous parlait de Nelson Mandela. Mais cher Sow, quand on écoute Adama Gueye, on voit toutes les facettes. Lui qui l'a eu la rencontrer, il voyait le sens de concentration de cet homme qui, pourtant, après 26 ans de captivité, qui était seul dans une cellule, qui arrive aujourd'hui à captiver les autres, à se concentrer. Et puis, malgré, parce que quand on passe 26 ans dans une cellule, vous n'entendez que le bruit des portes et qu'un jour vous entendez des brouhaha de partout, certains auraient perdu la tête quelque part. Mais lui, il a gardé sa sérénité, il a ce sens de concentration, c'est énorme, c'est un homme hors du commun.
Non, on ne va pas dire que c'est un homme hors du commun. Je crois que c'est un homme. Je me souviens, il y a quelqu'un qui nous disait quand on était jeune qu'on n'utilisait que 10% de nos capacités et puis il y en a qui arrivent à le faire et pourtant c'est des humains. Quoi. Mm-hmm. Ce qui vous montre que c'est un homme hors du commun, c'est qu'il est mort, c'est un mortel. Donc, mm-hmm. Voilà. Cependant, justement, on a vu dans l'histoire des individus qui sont arrivés dans des conditions d'incarcération, même dans les camps de concentration, avec tout ce qui vont créer le mouvement de l'entraînement mental, qui sont dans des situations de déshumanisation telles que ils se disent, mais si on n'a pas de livres, on a rien entre nous, mais au fond de nous-mêmes, on peut puiser de la force pour refuser d'être considérés différemment que des humains. Que des humains. Donc, nous sommes des humains. Je crois que ça, c'est important, et de penser de manière complexe le monde. Et je crois que quand on voit Nelson Mandela dans son histoire, bon, je fais pas de psychanalyse, donc je connais pas très très bien sa vie enfantine, mais je crois que quand on regarde bien, le fait qu'il est... C'est un chrétien.
C'est un homme de foi.
C'est un homme de foi.
Mm-hmm.
C'est un homme de foi. Et je crois que quand quelqu'un est un homme de foi, dans des conditions comme ça, on utilise ces situations pour faire de la méditation.
Mm-hmm.
Et je crois que vraiment, c'est vraiment cette... je pense que c'est cela aussi qui explique la manière dont il s'est constitué pendant ses 27 ans en prison. Oui. Je suis sûr qu'au fond de lui-même, il était sûr et certain.
Mmh.
Il était sûr et certain qu'un jour prendra fin l'apartheid. Il était sûr et certain. Mais il n'était pas sûr de pouvoir y assister. Et ça, c'est important. Je pense qu'il a vécu au fond de lui-même comme si un jour il le ferait, il le vivrait en même temps, en attendant. Il méditait pour dire, peut-être que dans mes prières, dans ma pensée, je participerai à faire bouger les choses. Et ce qui fait que quand il sort, mais il sort avec presque cette situation presque spirituelle, de dire, mais les choses n'auraient pas pu se passer autrement.
Mmh.
Voilà. Elles sont là, je les prends. Mais en même temps, il ne faut pas que parce que les choses sont passées ainsi, j'oublie tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vécu avec les autres et le combat qu'on a mené. Et en fait, le fait de sortir de prison lui permet en même de dire, justement, de rassurer que c'est un être humain. Quoi. Et je crois que ça, c'est important. Oui. Moi, j'ai envie d'avoir cette position philosophique-là. Et ce que le journaliste dit, c'est important.
Mm-hmm.
C'est qu'il nous, il nous sommes d'être. Il nous sommes de nous engager au sens même de Sartre. Il nous sommes d'arpenter le chemin
de la lutte, de la, voilà, de la lutte, de la contestation, de la transformation sociale. Il nous dit, tout être humain sur, ces, sur cette terre-là doit savoir que ce que la main de l'homme a fait, la main de l'homme peut le défaire.
Effectivement.
Voilà, il nous dit que même si ce qui est certain est incertain, tout est possible. Voilà, les choses sont possibles. Et donc, même au moment où on pense que les choses vont être impossibles, on peut les transformer. Et donc, il nous amène à nous mettre dans une position mais d'extrême optimisme.
Mais
d'extrême optimisme. Et moi, je suis très optimiste aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, votre optimisme, est-ce qu'il est partagé par la jeune génération d'aujourd'hui et en Afrique du Sud, par exemple, et on viendra en France? Parce qu'il y a eu un tintamarre terrible à l'annonce de sa mort. On a montré ce combattant pour l'égalité, pour la liberté. Mais en même temps, est-ce que ces enseignements permettront un jour à ce que l'Occident puisse résoudre à un niveau, beaucoup, à un degré supérieur, quelque part, le problème du racisme?
Je pense déjà, si on prend le cas de l'Afrique du Sud, le discours de Nelson Mandela, sa pensée, sa manière de voir, devront participer à vraiment limiter les affres du racisme, qu'il soit un racisme des blancs sur les noirs ou des noirs sur les blancs. Je crois que les questions de discrimination, tout ça, son discours et sa vision du monde devront arriver quand même à réguler cela. Il n'empêche qu'il y a quand même quelque chose d'assez important, c'est la question de l'exclusion sociale. Aujourd'hui, il y a 80% des moyens du pays qui sont entre les mains, effectivement, de peut-être 20% de la population qui sont blanches. Mais on voit bien que depuis que l'ANC est au pouvoir, une sorte de redistribution du pouvoir qui se fait, une montée d'une génération de leadership noir qui se fait. Malgré tout, on le voit dans les townships, la classe ouvrière, la paysannerie, c'est difficile. Et, il faudra, à mon avis, quelques années. Et je pense que ce n'est pas la génération des Zuma et autres qui vont gérer ça, c'est les enfants qui ont aujourd'hui 20, 25 ans, qui plus tard, effectivement, vont vivre une véritable nouvelle Afrique du Sud. C'est pourquoi là, je suis assez optimiste, quoi. Après, je ne dis pas qu'on va être dans un pays socialiste, communiste, etc. Bon, ça c'est autre chose. L'histoire on le dira. Par contre, si on arrive, c'est pas par contre, si on veut adopter ou adapter son discours en Occident, si on prend le cas effectivement de la France, je ne pense pas vraiment, malheureusement, que ça amène à changer les choses.
Que ça serve à quelque chose.
Je ne le pense pas. C'est-à-dire que ça peut effectivement influencer les leaders qui luttent contre le racisme. Mais je ne pense pas que ça va influencer l'établissement parce que... Mais même le Front National a pleuré sur Nelson Mandela. Attendez, voilà. Ce que j'appelle les larmes de crocodile. Non. Le racisme, on ne peut pas dire que la France est un pays raciste. Tout le monde, d'ailleurs, en fait, ceux qui sont conscients le savent. Mais il y a du racisme. Et ce racisme-là, c'est pas seulement du racisme contre les Noirs, c'est du racisme contre les Arabes, c'est du racisme contre les Roms. Je crois qu'on voit bien que dans des situations de crise, le racisme est utilisé comme argument, justement, d'interprétation et une forme qu'on adopte par rapport à la crise. Je ne parle pas, on peut avoir effectivement ce qu'on appelle le racisme d'extermination, comme ce qui a amené la Shoah ou ce qui s'est passé entre les Hutus et les Tutsis. Je ne pense pas qu'on y aille jusque-là, même si. Je ne parle pas de racisme de domination, comme ça s'est passé avec la colonisation, même si. Je parle plutôt d'un racisme d'exclusion. Que subissent malheureusement des personnes qui ont une couleur différente que la couleur dominante ou qui viennent effectivement de pays où ils subissent eux-mêmes le racisme, parce que les Roms subissent quand même un véritable racisme dans le pays d'où ils viennent, quoi. Et je ne pense pas vraiment là, par contre, je ne pense pas que
c'est
ça...
C'est du scepticisme.
Ouais, je suis pas optimiste, quoi. Pour l'influence du discours de Nelson Mandela sur...
sur l'Occident.
Effectivement, non, mais c'est-à-dire que ça s'est passé juste après les Yabon Banania qui ont été exposés partout en France. Et il y a eu cette mort qui a permis à un moment donné à toute la presse, hypocrite soit-elle, je dirais, les mots, hein, par exemple, de cette classe politique ou bien de certaines personnes qui n'ont pas, qui n'avaient pour moi pas droit de citer dans cet événement.
Non, mais si on veut. Si on
utilise.
Oui, mais le problème, c'est que quand on parle d'Nelson Mandela, je te dis tout à l'heure, quand on parle d'Nelson Mandela en Occident, mm-hmm. on va parler des pacifistes, de la réconciliation. Mais on ne va pas parler de la raison pour laquelle il a lutté. Mm-hmm. La question de l'apartheid. Parce qu'on a peur de ça. C'est-à-dire mm-hmm. de dire que oui, en Afrique, il y a eu un pays où des Blancs sont arrivés d'ailleurs, sont venus, ont colonisé ce pays, ont transformé les habitants de ce pays-là, comme les Américains, les Européens ont fait d'ailleurs avec les Indiens. Mm-hmm. Donc on les ont transformés en sous-hommes, où il y avait des places pour des Blancs, des places pour des Noirs, des bus pour des Blancs, des bus pour les Noirs. Expliquer ce que c'est que le système de l'apartheid, que les gens ont été obligés d'avoir des cartes de passe pour passer d'un quartier à un autre, ouais. Que certains emplois leur étaient interdits. Mais parler de ce racisme d'État-là leur fait peur parce que c'est par là montrer aussi que ça pourrait exister ici. Voilà. Et donc, on va montrer juste le Nelson Mandela.
Et c'est une forme de domination qui existait jusque dans les années 90.
Mais bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Parce qu'à un certain moment, certains ont parlé d'apartheid scolaire. Mm-hmm. Il ne fallait pas parler de ça. On a peur. On a peur de ces termes-là. Mm-hmm. Alors qu'il y a justement en mouvement des germes de ce racisme-là, d'exclusion, que des personnes sont. De par la consonance de leur nom, de leur religion, de leur appartenance supposée raciale, ethnique, etc., exclus de certains services, exclus du système. Et donc ça, bon, bien sûr, on ne va pas dire que c'est de l'apartheid, mais ça y ressemble. Voilà. Et donc on veut lutter contre les discriminations, sans les nommer, sans les dire réellement et sans dire quelles sont les affres. Que ça implique et puis comment le système lui-même le construit. Mais attendez, aujourd'hui on sait très bien que la France est très en retard par rapport à d'autres pays européens où les étrangers n'ont pas le droit de vote. Et donc c'est une quand même discrimination et cette discrimination-là elle s'adresse à qui? Ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne. Les Européens ont le droit de vote, mais au bout de quelques mois ou d'années de résidence. Ouais. Alors que ceux qui viennent des anciennes colonies de l'Afrique, etc., n'ont pas le droit de vote s'ils ne sont pas des nationaux. Ça, c'est une forme de discrimination qui existe. Et donc, ça peut effectivement renvoyer aussi à cet apartheid où les personnes, étant dans un même pays, n'avaient pas le droit au vote. D'ailleurs, le combat de Nelson Mandela, c'est « one man, one vote ». Yes. Oui, allez, on va pas... s'ils le disent ça... Ils vont être en contradiction avec leurs propres principes aujourd'hui, parce que très peu d'élus politiques et de partis politiques disent qu'il faut faire le droit, donner le droit
même
de vote.
Même ceux qui l'avaient introduit dans leur programme sont en train de reculer.
Voyez ce que je veux dire. C'est pourquoi je vous dis, parler de Nelson Mandela au sens objectif fait peur. Alors on va donc nous montrer qu'une certaine facette de Nelson Mandela. Et donc le fait de dire c'est un surhomme, de ne parler que de ce côté sanctifié, nous empêche justement de parler de son vrai combat, des vraies raisons, des vrais raisins de sa colère, je dirais. Voilà. Et c'est là où est l'enjeu pour nous qui travaillons sur ces questions d'histoire et de mémoire, de dire aussi que voilà, les choses sont complexes et que Nelson Mandela ne doit pas être considéré seulement comme une icône, pas seulement d'ailleurs, pas comme une icône, mais comme un individu qui, dans l'histoire, a joué un grand rôle. Parce qu'un jour, il s'est levé et il s'est dit, les injustices, je n'en veux pas. Et je vais combattre jusqu'au sacrifice suprême pour que finissent ces injustices-là. C'est pourquoi il était vraiment un internationaliste. Nelson Mandela n'est pas resté seulement à penser pour son propre pays, pour son propre peuple. C'est pourquoi il a soutenu effectivement toutes les guerres justes. y compris effectivement la lutte de la Palestine pour son autodétermination. Je crois que ça, c'est important. Et pourquoi on a eu peur de lui? C'est justement parce qu'il voulait un système égalitaire, un système juste, un système d'équité. Et ça, ce discours-là, et oui, c'est peut-être justement ce discours-là, si on le tient dans l'objectivité et dans l'authenticité, il peut avoir une influence en France. Mais ce ne sera pas seulement que la question du racisme, c'est la question aussi sociale. C'est ça aussi qui est important. Il ne va pas seulement parler que de la question du racisme. Son discours, ce n'est pas seulement que la question du racisme, c'est aussi la question sociale, c'est aussi la question de l'égalité des hommes, des femmes, la question de, voilà, la question de la place des travailleurs dans le système économique. C'est ça qui est important. Donc, un nouveau monde. Mm-hmm. Un nouveau monde. Et je crois que Nelson Mandela, a, malgré tout, dans ces dernières heures, a beaucoup souffert de comment le monde vivait. Avec la guerre, il a quand même vécu la guerre en Irak, il a vécu ce qui s'est passé au Liban, en Libye. Regardez, aujourd'hui, on a liquidé Kadhafi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Libye? Mais voilà, comme en Iran. Voilà,
exactement.
Et donc, c'est pourquoi je me dis, on ne va pas dire que après Nelson Mandela, ce sera le chaos où il n'y aura plus. Non, je pense que l'histoire nous donnera encore des hommes et des femmes qui vont s'inspirer justement des personnes comme Nelson Mandela.
Mais
et qui vont faire bouger les choses de ce monde-là.
Est-ce qu'ils auront la présence d'esprit et le caractère de cet homme qui a su pardonner? Parce que, cher Sow, quand on voit son enfant se faire lyncher, même brûler, et que tu te retrouves avec tous ces ravisseurs, et que tu oses pardonner ton propre fils, quant à cette hauteur, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont cette hauteur. En tout cas, en me le jugeant, je ne sais pas si j'aurai la hauteur de voir ces hommes et de leur dire « je vous pardonne ». Et il a su le faire. Et là, à partir de cet instant, je me suis dit « donc c'est possible, certes ».
Mais oui, c'est possible.
C'est possible, certes. Mais quand je vois tout ce qu'il a fait en tant qu'homme noir qui a été opprimé pendant des années, qui a pu dire aujourd'hui, qu'on soit noir ou blanc, je combattrai tout ce qui est contre le système qui d'oppression, d'illégalité, de tout bord, que ce soit de mon camp ou du camp des Blancs.
Mais je dis même une chose, tu sais, en ce moment, certains ont commencé à le taxer d'antisémite. Parce que justement, il luttait contre le pouvoir sioniste israélien. Mais le juge qu'il a inculpé, c'était un juif.
Oui.
Et quand il est sorti, il a invité cette personne. Ils ont parlé.
Bien sûr, bien sûr.
Il lui a pardonné.
Bien sûr.
Donc il savait très bien que en Israël, il y avait à la fois des juifs qui étaient pour l'annexion de la Palestine et d'autres qui luttaient justement pour une régulation des relations entre Israël et Palestine. Et il savait aussi que chez les juifs, il y avait des juifs qui avaient lutté contre l'apartheid. Et qui étaient, d'autant plus que le pouvoir sud-africain était très antisémite, on l'oublie ça malgré tout. C'est assez paradoxal, je vous dis. Et ce juge juif a tout fait pour arriver au pouvoir, pour montrer qu'il était aussi africaneur que les autres. Et en fait, la manière de le montrer, c'était de prendre la décision de mettre Nelson Mandela en prison. Et pourtant, on regarde bien qu'est-ce qui se passe. Cet homme-là, tout en combattant Israël dans ses prétentions d'annexion sur la Palestine, ne voit pas l'homme juif comme un juif tel qu'on le voit du point de vue raciste. Il le voit comme un individu, tout simplement. Et il n'a pas voulu rentrer, il ne pouvait pas rentrer dans ce jeu-là, dans ce jeu de l'assignation identitaire. Et c'est là où il y a la complexité et même la force de Nelson Mandela. Son discours est un discours humaniste. Moi, je dis toujours, il forge ce que moi j'entends par le nouvel humanisme. C'est-à-dire qu'on est dans le monde est un patrimoine, le monde appartient à tout le monde, et tous les enfants, quelle que soit la couleur de la peau, leur sexe, leur genre, leur religion, ont droit à cette vie-là. Parce que lui, tu vois, je te dis, 27 ans en prison, tu n'étais pas sûr un jour d'en sortir, tu en sors, tu te dis, mais si cela est possible, mais tout le reste est possible. Donc, il est possible aussi que je puisse pardonner à ces gens-là. Parce que si je ne le fais pas, c'est que je vais nier tout ce à quoi j'ai cru au départ. Parce qu'il l'a toujours dit, même son, dans, son premier dans la première interview, il dit « Je suis contre toute domination raciale, qu'elle vienne des Noirs comme des, des Blancs. Je veux une Afrique du Sud multiraciale. » Il le dit dans ses premières interviews. Donc, il n'a pas nié cela. Et donc, il ne pouvait pas ne pas faire cela. Parce qu'il était cohérent avec lui. Il a pas. Il nous demande à être cohérent, avec nous. Parce qu'on a des hommes d'État qui nous disent ceci. Je veux la démocratie. C'est des démocrates en position. Ils deviennent des despotes. Et c'est des démocrates dans l'opposition, comme je dis. Et ils deviennent des despotes en position. C'est ça. Voilà. Ce que j'appelle des démocrates en opposition. Ouais. Mais quand ils sont en opposition, ils deviennent de véritables despotes. Et lui, il peut dire heureusement que j'ai échappé à ça. Et si j'ai pu y échapper, d'autres peuvent y échapper. Et donc, il fonde à la fois un nouvel humanisme, mais il fonde aussi une nouvelle manière de faire la politique. Et je crois qu'il devrait être enseigné dans toutes les écoles de politique en Afrique et dans le monde. Dans tous les instituts où on forme de futurs politiques, son histoire devra être enseignée et son exemple... enseigner pour servir de référence pour les générations.
Donc pour le futur, en très peu de temps, quelques minutes, on peut dire que les enseignements de l'Assemblée Mandela peuvent servir à l'Afrique du Sud.
Comme au
ils
monde.
Ils peuvent le détruire aussi.
Oui, ils peuvent le détruire. Bien sûr, comme en toute chose, il y a une sorte de dialectique.
Ouais.
Mais
pour le futur, ces jeunes n'arrive pas à cerner son enseignement. Ne pensez-vous pas que l'Afrique du Sud peut tomber comme dans une autre forme d'apartheid?
Mais je veux garder l'espoir quand même qu'ils choisiront, comme Nelson Mandela,
le bon chemin. Et comprendre son enseignement.
Ouais, je veux garder quand même l'espoir.
Non pas tout simplement savoir ce qu'il est, mais le comprendre.
Qu'ils le comprendront, qu'ils s'engageront, qu'ils en feront vraiment.
Et agir en parallèle avec ses enseignements.
Ouais, je veux garder quand même cet espoir-là, que des générations, des enfants, des jeunes, des filles comme garçons de la génération actuelle comprendront et feront leur la pensée et le passé de Nelson Mandela pour construire, pour ne pas trahir justement son enseignement, et pour construire une nouvelle Afrique du Sud, mais en même temps, pour moi je veux le penser aussi, quoi, influencer aussi d'autres générations à travers l'Afrique, pour qu'à la fois qu'on se libère de notre esclavage mental, qu'on se libère des chaînes d'oppression et de domination, parce que malgré tout, il y a quand même des relations néocoloniales qui sont construites en sourdine, et que les futures générations et les générations actuelles africaines comptent sur leurs propres forces pour leur libération, pour leur développement, tout en étant en solidarité internationale avec le reste du monde, quoi. Je veux garder vraiment cet espoir-là, cet optimisme que c'est ainsi que les choses vont se passer, même si l'histoire peut nous démontrer le contraire. Mais je veux le penser, parce que je pense qu'en mourant, Nelson Mandela a fait le vœu pieux que cela se passera ainsi, et il est parti en le pensant, et on peut espérer que cela se passera ainsi.
On espère que ça se passera ainsi. En tout cas, il disait ceci: j'ai dédié ma vie à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu la domination blanche et j'ai combattu la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle tous vivraient ensemble dans l'harmonie avec d'égales opportunités. C'est un idéal que j'espère atteindre et pour lequel j'espère vivre. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. C'est sur ces belles notes que nous allons rendre l'antenne. En tout cas, merci Monsieur Cherceau d'être avec nous sur les ondes de Radio 91.3 avec cette très belle émission, avec à la régie Jérôme Solaire. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour une autre question d'actualité. Cherceau, merci.
Merci beaucoup, Mayassine, et merci à Jérôme, merci à Aude Radio.
Merci aussi Jérôme Solaire.
Et à vos éditeurs et auditrices du monde entier.
Merci beaucoup. Allez, au revoir.